Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
J'arrive.
Hey, salut les gars.
Salut Virgile.
Eh bien enchanté, rentrez.
On est venu te voir.
Yes.
Salut Virgile, comment ça va?
Bah nickel, écoute, bienvenue.
Merci.
Bon, c'est super sympa de nous recevoir chez toi, avec une belle collection de vinyles, dis donc, qui trône
Merci.
Là dans ton salon.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qu'on voit là? On peut regarder un peu?
Ouais, carrément, allez-y, hein. diguez.
Écoute, je vois déjà un petit lot d'albums d'Herbie Hancock.
Carrément, et on a. Il y a du Roy Ayers,
il y a du Roy Ayers, bien sûr.
Il y a plein de trucs sympatoches.
Un Paul Jackson, dis donc.
Ouais, une bonne ref.
Gal McDermott.
Ça, c'est une belle pièce. Tu veux que je te raconte?
Ah bah oui, pourquoi pas.
Ouais. Gal McDermott, comme beaucoup de musiciens, moi j'ai découvert via des samples, d'où l'importance du hip-hop... Dans la culture actuelle. Et oui, un petit coffee call, tout ça. Et puis je suis tombé chez un disquaire que j'adore, qui s'appelle Heartbeat, chez Emily, qui avait une très belle pièce. Et oui, j'ai craqué le PEL.
Il date de quand, celui-là?
Fin 60, il me semble, un truc comme ça.
Ouais, quand même.
Ouais.
Ok. Aussitôt.
Ouais, déjà.
Super bon état, déjà. En plus.
Ouais, carrément.
Ah, belle pièce.
Merci.
Il y a un petit peu de musique japonaise aussi.
Pas mal de musique japonaise, ouais.
Du groove japonais, on peut dire.
Ouais, pas mal de groove japonais, un peu de jazz japonais aussi, la fusion. Voilà, moi ce que j'adore chez les japonais déjà, c'est que les vinyles sont toujours dans une condition extraordinaire, même les premiers pressages. Et que les productions sont assez dingues, ça sonne vraiment super bien, c'est des gros musiciens... Voilà, bon, il y a une petite hype autour du Japon dans le milieu du vinyle, parce que à cause de tout ça.
Ouais.
Et moi, j'y ai cédé.
Oui, c'est vrai, les éditions japonaises, on se trompe rarement, hein, ça sonne, c'est
ah,
clair.
Ouais, carrément.
Ouais, et puis quand on dit import japonais, en général, dans le monde du vinyle, on dit waouh.
Ouais, c'est prestige. Ah,
c'est mieux.
Bon, je vois un Chantal Goya là, mais c'est.
Oui, c'est pour la blague. C'est pour la blague. J'ai pas mal de blagues aussi dans ma modeste collection.
Ouais, ça peut servir.
Ouais, ça peut servir.
Ça peut servir.
Exactement.
En tout cas, je vais dresser un portrait rapide de Virgile Raffaelli quand même, vas-y, qu'on sache un peu de qui on parle.
J'écoute, fais attention à ce que tu dis.
D'abord, tu es passionné par la scène jazz funk et fusion des années 70. C'est pas un secret.
Non.
Virgile Raffaelli, tu es à la tête du groupe Aldorand.
Yes.
Forcément, tu rends hommage à tous ces acteurs de cette scène jazz funk et fusion dans ce second album, Foisonnant et Cosmique. Ça, je l'ai lu sur une interview que tu avais donnée.
Ouais.
Et cet album, il est sobrement intitulé 2.
Yes.
Il est sorti en 2021, il me semble.
C'est ça.
Pour mémoire, quand même, l'histoire du groupe dont le nom s'inspire d'une planète de la saga Star Wars commence sur les chapeaux de roue en 2019 avec un premier disque paru sur le label Favorite Records qui est propulsé immédiatement album jazz de la semaine par FIP et sacré révélation de Jazz Magazine en 2020. C'est un beau début, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Ça en jette.
On peut préciser que le quartet comprend des musiciens déjà confirmés.
Ouais.
Virgile, toi tu es bassiste et tu es aussi engagé avec d'autres formations comme Setenta ou le Camaron Orchestra.
Mmh.
Florian Pellissier est au clavier, où il a joué avec Iggy Pop, Guts, Setenta également, Cotonette et Al Sonny. Mathieu Edward à la batterie, lui il tourne avec Chassol et De La Soul. Et enfin Erwan Lofel aux percussions, qui œuvre lui avec Dyslexis et le Camaro Orchestra, bien connu de nos services. Cela explique évidemment aussi les influences latines que l'on retrouve dans le son d'Aldorand. En tout cas, ce deuxième album sorti en 2021, on en parlait, est considéré comme un retour sur la planète funk, avec des instruments aussi qui y jouent un rôle, tels que le Fender Rhodes, le clavinet, le Mini Moog et d'autres claviers vintage. Ça, c'est Florian qui s'en occupe.
Ouais.
Une section cuivre également, avec Paul Bouclier et Franck Chatonat. Et puis, il y a aussi des chœurs avec Akemi Fujimori, Cléo Penet, Léa Moreau et Al Sonny.
Exact.
Au total, on peut dire que Aldorand s'ancre dans un courant jazz-funk tout en restant en même temps libre, un peu comme les rythmes qui ont contribué à propulser Johnny Hammond dans les cieux des années 70 avec des percussions acoustiques accompagnées de lignes de basse qui tombent à pic. Et les lignes de basse, chez Aldorand, c'est ton rayon, ça.
Oui, c'est mon rayon, c'est un peu mon job.
C'est un peu ton job.
C'est mon job, ouais.
Est-ce qu'on écouterait un petit morceau de ta sélection, Virgile, puisqu'on est venu te poser une question importante? Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Alors, en ce moment, ce qui n'est pas forcément ce que j'écouterai demain ou ce que j'ai écouté hier, en ce moment, je suis dans ma phase Ahmad Jamal, donc un petit peu de jazz. C'est un morceau qui s'appelle I Love Music. C'est un morceau que j'ai découvert par le hip-hop, encore une fois, hein, donc hyper samplé, notamment par J. Dilla, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, et j'ai adoré. Et en fait, la découverte de la musique via le sample, ça permet de découvrir des albums, des artistes, tout un répertoire. Et à chaque fois, c'est une joie. Voilà, donc j'adore ce morceau.
Eh ben, on écoute.
On écoute. Thank you.
cet album, c'est un album qui est sorti en 1970 qui s'appelle The Awakening.
Yes.
C'est bien, c'est l'éveil, c'est ça, c'est la révélation. Tu as choisi un morceau qui est plutôt... on s'attendait, c'est vrai, ben on s'attendait à quelque chose qui groove à la mode jazz funk. En fait, c'est pas du tout le cas.
Ouais, c'est vraiment un morceau de vibe, en fait. Moi, j'adore son son de piano, j'adore son jeu qui est hyper expressif. On sent qu'il suit le fil de ses pensées. Je me l'imagine jouer les yeux fermés. Et puis, il se laisse, à mon avis, il suit le thème, la grille, mais il s'envole, il est libre. Et puis on revient à un moment donné sur ce thème un peu récurrent, dans la rythmique qui arrive très timidement derrière, juste pour habiller un peu son propos et le soutenir. Et c'est vraiment un morceau de, je sais pas, un morceau de trip. Triper, voyager, plutôt que... Ah, je parle pas d'entrailles, ni de Le Mans. Mais voilà, j'adore ce morceau. Moi, il me fait voyager et c'est vrai que j'écoute beaucoup la musique au casque quand je me transporte, quand je me déplace. Ça me fait passer le chemin.
Et ça te transporte,
ouais,
justement.
Exactement.
Mais ça. Et ça te prend aux tripes quand même.
Et ça me prend aux tripes.
Donc il y a un petit peu d'entrailles quand même dans l'histoire.
C'est vrai. Tout à fait. T'as raison.
Mais c'est vrai que dans ce morceau, là, il y a toutes les palettes du piano d'Ahmad Jamal qui sont. Il a le temps de développer tout son langage pianistique,
c'est
impressionnant.
Super. Ouais, il raconte vraiment, on sent qu'il raconte une histoire. Ouais, c'est ça la musique, c'est ça le jazz.
D'ailleurs, bah, vous avez un point commun puisque il dit à Ahmad Jamal lors d'une interview qu'il avait confiée au New York Times, je pense à la musique tout le temps.
Ah oui, bah écoute, ça me fait plaisir.
Alors c'est bien, tu es avec ton instrument, tu as sorti ta basse, une basse, c'est une fabrication spéciale.
Oui, c'est des petites séries, c'est un assembleur qui s'appelle Nash Guitars, qui est américain, et qui fait principalement des assemblages de Fender, donc précision ou jazz bass, et qui sont pré-usés comme les jeans qu'on achetait à l'époque... dans les 90s, avec des trous et des pocs et tout est rouillé, mais elle sonne fantastiquement bien et elle tombe très bien sous mes doigts.
Et elle a un manche large.
Et elle a un manche large et épais.
Et ça te plaît beaucoup.
Et j'adore.
C'est quoi ton son ? On peut dire que tu as un son aujourd'hui ?
Oui, on peut dire que j'ai un son crade. Je suis pas un bassiste précis et virtuose, donc vraiment pour moi c'est vraiment juste le groove pour le groove et la recherche du son et du riff, voilà, de la ligne de basse qu'on retient, qui a une vraie identité. J'essaye de naviguer entre le soutien de la musique et puis le riff de basse qu'on kiffe quand on écoute à gros volume. Voilà, en gros, c'est principalement dirigé rythmique. Voilà, mais le backbone, donc la colonne vertébrale du groupe, c'est la rythmique. Donc c'est pour ça qu'on a un batteur, un bassiste, un percussionniste qui prennent beaucoup de place. Et puis Florian qui prend beaucoup de place, mais tout seul.
Et tu aimes bien un son plutôt droit ou tu aimes bien rajouter quelque chose ?
Ouais. Non, moi c'est... j'adore les effets parce que je suis un geek, mais en fait, au final, je m'en sers jamais. J'ai pas mal de pédales dont je me sers jamais. Et au final, ce qui sonne le mieux, c'est la basse en direct, dans l'ampli ou dans la table.
Ouais, après,
parce qu'elle sonne très bien comme ça, c'est le son que j'aime. Donc,
si tu aimes les pick-ups, les micros
sont top. Les micros sont top. Elles sonnent super bien et c'est l'avantage des précisions parce que c'est un modèle de précision, de basse précision. L'avantage des précisions, comme le disent beaucoup de gens et ça se vérifie, c'est que elle a un spectre très médium, contrairement au jazz bass qui a un spectre très très grave et très aigu, mais il y a un petit trou au niveau des médiums. Et les ingé-sons adorent les précisions parce qu'elles percent le mix naturellement, en fait, parce qu'il n'y a personne dans ce spectre-là.
À part les voix,
ouais, tout à fait. Mais en tout cas, en termes d'instruments, c'est l'avantage des précisions. Et puis en plus, c'est très agréable. Et j'adore ce son un peu moelleux à l'ancienne, quoi, à la Paul Jackson, tu vois.
Et voilà, nous y voilà.
Exactement.
Alors nous, on aime bien les exclus à Caisse d'écoute. Et donc, tu pourrais peut-être nous spoiler une ligne de basse qui sortirait dans le numéro 3 ?
Ouais, c'est très possible. Je suis justement en train de réviser ce futur enregistrement. Et c'est un morceau qui ne s'appelle pas encore. Ça commence comme ça. Et ce sera tout pour le spoil.
On parlait du slap tout à l'heure et tu aimes bien aussi slapper.
Ouais,
et
ça m'arrive.
Tu pourrais nous faire un exemple de slap ?
Ah, un exemple de slap. Bah, tu connais l'histoire du slap ?
Ben non, tiens.
Tu sais qui a inventé le slap ? Est-ce que tu sais ça ? Toi, tu sais, Benj. Si, il sait, il me fait signe dans l'oreillette.
Il y a de grandes chances que je me trompe, mais c'est pas les Brothers Johnson ou c'est pas Larry Graham.
Bien, Larry Graham, absolument. C'est bon, bah, tous les bassistes connaissent l'histoire, hein, de toute façon. Mais oui, c'est Larry Graham, l'inventeur du slap, donc qui est le bassiste de Sly and the Family Stone, le premier bassiste électrique à avoir slappé. Parce que t'as un slap de contrebasse aussi, qui existait avant. Qui n'est pas la même technique. Mais oui, Larry Graham, en fait, je crois qu'il avait une espèce de formation de balle avec sa maman. Et un jour, ils ont perdu le batteur, hein, qui s'est barré pour d'autres plans. Et ils n'avaient pas les moyens d'en embaucher un autre. Du coup, il a fait du slap. Donc, c'est-à-dire que tu as la grosse caisse au pouce et la caisse claire au doigt tiré. Voilà. Si on fait un rythme de batterie de basse, ça pourrait faire. Voilà.
D'accord, l'origine du slap, c'est ça.
L'origine du slap, c'est ça. C'est pour remplacer une batterie, ouais. Et garder la basse aussi. Donc ça fait. Voilà, ça se trouve, je fais quelques raccourcis, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et alors, Virgile, quand on t'a demandé qu'est-ce que t'écoutes, tu nous as donné un deuxième titre, un groupe qui s'appelle Transam. Alors là, c'est du japonais.
Ouais.
Et on voit que tu es un connaisseur, puisqu'il y en a plusieurs dans ta discothèque. Et il y a d'excellentes choses au Japon, dont ce groupe Transam,
ouais.
Avec Dance Ritual of Fire from Love. C'est du titre.
Ouais, c'est du titre. Alors, je ne connais pas l'œuvre originale qui est une œuvre classique. Tout ce que je sais, c'est que ce morceau et puis cet album, notamment notre Transam qui s'appelle Funky Steps, est un album de reprise de musique classique avec des instruments des années 70. Donc, il y a un clavier vintage qu'on adore. J'essaie d'en caser un maximum dans mes morceaux, notamment. Et qui a vraiment une touch funky, un son, une production vraiment extraordinaire, notamment ce moment où les claps arrivent sur les afterbeats, qui est génial parce que bon, on s'attend pas du tout à ça. On a une guitare à la Wawa Watson. Enfin bon, ça joue vraiment terrible, une grosse basse. Et j'adore. Et cet album à écouter au casque est extraordinaire. Il y a vraiment des parties pris vintage, on sent l'influence américaine, en tout cas, enfin moi c'est comme ça que je l'entends, et c'est vraiment, c'est toute une époque. D'ailleurs, c'était pas les seuls à reprendre des classiques en funky. Après, on a eu les classiques repris en disco de Walter Murphy notamment. Et c'est vrai qu'il y a, c'est, à mon avis, c'est un territoire qui a encore à explorer, la musique classique, et qui de toute façon qui est une énorme influence pour beaucoup beaucoup d'artistes, Gainsbourg notamment en France.
Complètement, oui.
Exactement.
Et Deodato au Brésil.
Deodato, et puis sans parler de la musique de Bach, qui est quand même un peu pour moi la racine du jazz moderne.
Waouh.
Je ressens le jazz chez Bach, en tout cas.
C'est un album effectivement qui s'appelle Funky Steps, qui est sorti en 1974, et le compositeur dont tu parlais, c'est Manuel de Falla. C'est un compositeur espagnol né à la fin du 19e siècle.
Eh ben, merci beaucoup.
Et comme tu le disais, l'essentiel des morceaux de cet album sont des compositions. On retrouve Vivaldi et d'autres compositeurs classiques. On en parlait juste avant avec Ben.
Clairement, moi j'adore.
On peut aussi s'intéresser à une autre partie, c'est les projets, ce qui te mobilise en ce moment, ce dont tu veux bien nous parler en tout cas.
Ah, mais avec plaisir, mais en ce moment, bah là on est sur la dernière ligne droite avant l'enregistrement de la rythmique du troisième album d'Aldorand, donc qui va s'appeler 3. Voilà, parce que...
Spoil.
Voilà, spoil.
Spoil alert.
Et voilà, parce que c'est une trilogie. C'est comme ça que j'ai pensé le projet Aldorand. Bah, je me suis forcément inspiré un petit peu de Star Wars. Voilà, je voulais faire une saga. Ouais, avec plusieurs trilogies. Donc ça, c'est la première trilogie. Je vous invite à lire les histoires qui sont toujours imprimées sur le bac des vinyles. Voilà, là, c'est l'album qui clôt la première trilogie Aldorand.
Une sorte d'épilogue sur ce qui s'est passé avant.
Ouais, épilogue avec une petite ouverture vers le futur, ou pourquoi pas un préquel ou, ou un spin-off, on ne sait pas encore, mais bon. Voilà, en gros, c'est la première trilogie, j'allais dire Star Wars, mais Aldorand. Et, d'ailleurs, les pochettes sont pensées aussi de cette manière-là. Donc une espèce de cohérence avec l'histoire, et puis
ouais, il faut dire que c'est toi qui les signes,
ouais,
les pochettes.
Et c'est souvent, pour la petite anecdote, c'est souvent la première pierre que je pose à l'édifice de chaque album. Et c'est une manière de rentrer comme un échauffement avant de faire un combat, j'imagine. Enfin, c'est un peu martial comme discours, mais c'est une façon de rentrer dans le jeu. Voilà.
Et alors l'histoire qu'il faut absolument lire au verso du vinyle, c'est toi qui écris le texte.
Bon, c'est un peu collectif, et puis elle arrive un petit peu naturellement, tu vois, on essaie de s'inspirer.
Après la pochette.
Ouais. Ouais. J'avoue.
Ok.
J'avoue, ça se fait beaucoup de. Enfin, on trouve souvent des histoires après la création. Parce que je pense qu'on formule pas toujours ce qu'on a en tête, et puis moi j'aime bien faire venir les choses naturellement, donc si ça se trouve l'histoire est déjà là sans qu'elle soit formulée, mais après on la formule grâce à Franck Cochon qui nous écrit nos petites histoires, et qui suit donc l'aventure en parallèle. Et voilà, donc on lui raconte ce qu'on veut raconter dans chaque album, et puis lui il met un petit peu ça en scène. Et sur le deuxième album, alors l'histoire, c'est que pour le coup, on a essayé de réfléchir à l'histoire avant d'écrire l'album. Donc okay. On a demandé à Franck Cochon de nous écrire un petit pitch, nous faire un petit laïus. Et après, on a réfléchi au titre, à l'ordre des morceaux et aux ambiances qu'on voulait. Parce que c'est vrai que l'album 2 est un peu plus un album concept. Un petit peu plus trippé que le premier, qui est une espèce de fourre-tout d'influence et de morceaux qui ont maturé pendant pas mal d'années. Voilà. Deux est plus trippé que un. Et
trippé,
trois,
tu veux dire.
Un petit peu plus. Comment dire. Un petit peu plus arrangé. Et. Un peu plus spatial. Un petit peu plus. Onirique.
Peut-être plus relié à la trame de l'histoire aussi, enfin,
ouais, ouais.
Illustrant mieux le...
Ouais, ouais, ouais.
Ok. Alors Virgile, on arrive à la question fatidique et finale. Mmh. Si tu devais rencontrer ton idole musicale, qui ce serait et qu'est-ce que tu aurais à lui dire?
Alors, moi j'ai deux noms qui me viennent en tête, c'est Roy Ayers et Herbie Hancock, forcément. On notera qu'il n'y a pas de bassiste dans l'histoire.
Ben oui, c'est vrai.
On note.
Et qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question
Alors là, tu t'adresses à qui alors? Précise.
À Roy Ayers.
À Roy Ayers,
le patron. J'aimerais savoir, parce qu'il a quand même une discographie assez impressionnante. Bah, c'est ça, quel est son processus de composition? Voilà, et comment il recrute ses artistes? Ses musiciens, je veux dire. Exactement, parce qu'il a vraiment une couleur musicale. Voilà.
Eh bien, merci Virgile pour ce bon moment.
Merci Virgile.
Un bon moment partagé et réciproque. Thank you.